Bonjour, bienvenue sur La vie est un conte, un podcast qui vous aide à être pleinement acteur, actrice de votre vie. Je m'appelle Axel, je suis coach et praticienne narrative. Je vous livre ici, un mardi sur deux, un conte qui m'a inspirée. Quelques réflexions tirées de ce récit et un outil concret issu de ma pratique de coach pour vous permettre d'être davantage auteur, acteur et réalisateur de votre propre histoire. Abonnez-vous au podcast La vie est un conte sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 15 de La vie est un conte. Avant de commencer, je souhaitais remercier Chris3101 pour son commentaire. Il écrit « Un véritable parcours initiatique, la puissance narrative, on ne voit pas le temps passer et pourtant que de découvertes sur nous-mêmes et notre intériorité. C'est du coaching via podcast, bravo !» Merci beaucoup Chris pour ce retour et je suis ravie si ces podcasts permettent ces découvertes. Merci. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est intitulée « La mère, le fils ». Elle est issue du recueil « Le livre des chemins » de Henri Gougaud. Il était une fois, deux fois, maintes fois, une mère qui perdit son fils. Est-il plus grand malheur au monde que de perdre son enfant ? Cette mère-là vit son garçon mourir. Il avait 5 ans. Sa douleur fut telle, sa révolte aussi, et le hurlement qu'elle lança au ciel fut si terrible et si puissant que Dieu descendit devant elle. Elle le supplia de lui rendre son fils. C'était sûrement une erreur. Cet enfant avait tout à vivre. Pourquoi lui plutôt qu'elle, ou quelque autre parent ? Le Créateur lui répondit : « Femme, j'ai entendu ta plainte. Tu reverras ton fils vivant, pourvu que tu mendies un bol de riz pour moi, et qu'il te soit offert par quelqu'un, homme ou femme, qui n'ait jamais pleuré aucun mort sous son toit. » La mère s'enfuit donc de maison en maison, de village en village. On lui offrit du riz autant qu'elle en voulut, mais elle eut beau marcher, elle ne put trouver la demeure que le deuil n'eût jamais frappée. Point de palais ni de cabane, d'auberge ou de grotte d'ermite qui n'ait un jour ou l'autre abrité un défunt. Devant Dieu, elle revint bredouille. « Je connais ta loi, lui dit-elle, à chaque naissance une mort. C'est ainsi et nul n'y peut rien. Mais sais-tu ce qu'est une mère ? Sais-tu ce qu'elle souffre de voir son enfant mourir sur son sein ? Tu es cruel autant qu'injuste. Mon fils n'a pas assez vécu. Mort à 5 ans, pauvre petit, il avait tant besoin de moi. » « Nous allons donc lui demander s'il désire te revenir, » répondit le maître des vies. « Femme, j'en fais serment. Si c'est sa volonté, il te sera rendu. » Dieu tendit devant lui les bras et le mort apparut couché dans le berceau de ses mains jointes. Il avait l'air de sommeiller. « Enfant, ta mère te demande. » Et l'enfant répondit. « De qui me parle-t-on ? J'ai vécu tant de vies. Je fus fils d'une louve et d'une ânesse grise, fils d'une reine aussi, d'une jeune putain, d'une mendiante folle, de 1000 paysannes, de tant et tant d'autres. Dis, quelle mère veut que je revienne à elle ? Et pourquoi, Seigneur, le ferais-je ? Réponds-lui que ma route est longue, et que je ne peux m'attarder. » La mère s'en revint chez elle. Dieu, à ses hauteurs bleues, l'enfant, à son chemin. Et qu'il vous soit clair ou non, l'univers se déroule sans doute comme il le devrait. Max Hermann. À l'heure où je rédige ce podcast, les décorations d'Halloween fleurissent un peu partout. Les enfants se réjouissent de décorer la maison de fausses toiles d'araignée, de mettre des taches rougeâtres un peu partout, de cuisiner des mets sorcières avec des doigts de mort ensanglantés, des soupes dieux ou autres biscuits dentiers, et tout ça dans une bonne humeur teintée de franches rigolades. Pourtant, la mort n'a rien de drôle, et l'ambiance est tout autre à l'écoute de ce conte. Ici, la mort nous apparaît dans toute sa nudité et sa terrible réalité. Le narrateur nous interpelle dès le début par cette question. Est-il plus grand malheur au monde que de perdre son enfant? Comment ne pas être en empathie avec cette femme? Comment ne pas ressentir sa colère face à ce qu'elle pense être une injustice? On la voit passer par les différentes phases de la courbe du deuil établie par Elisabeth Kübler-Ross. Cette pionnière de l'approche des soins palliatifs et de l'accompagnement des mourants a formalisé les différents stades par lesquelles passe une personne lorsqu'elle apprend qu'elle va mourir, mais également comment réagit l'entourage après le décès d'un proche. Plus largement, cette courbe peut s'observer lors de gros changements comme la perte d'un emploi, de son lieu d'habitation suite à une catastrophe naturelle, d'une séparation, etc. Ainsi, la femme du conte, choquée par le décès de son trop jeune garçon, est d'abord dans le déni. « C'est sûrement une erreur », dit-elle. Puis, sa colère l'amène à marchander. Pourquoi lui plutôt qu'elle? Ou quelque autre parent? Enfin, elle témoigne de sa tristesse. Sais-tu ce qu'est une mère? Sais-tu ce qu'elle souffre de voir son enfant mourir sur son sein? Puis, elle en vient à une forme d'acceptation à la fin du conte. La mère s'en revint chez elle. Alors que la femme crie à l'injustice, le créateur lui offre un superbe recadrage par l'expérience. Alors un recadrage, c'est un jargon de coach. Un recadrage est une technique en accompagnement qui vise à permettre à un coaché ou à un patient de voir autrement. Il s'agit de faire apparaître ce qui préoccupe notre client sous une nouvelle lumière. La femme, allant mendier le riz, s'aperçoit que le deuil n'a rien d'exceptionnel. Cette expérience lui permet sans doute de trouver un peu de réconfort et de sortir de son isolement. Comme on dit, une peine partagée est moins lourde à porter. Cependant, l'âge de 5 ans lui paraît quand même très prématuré et la femme s'inquiète pour son enfant en notant qu'il avait tant besoin d'elle. Alors le créateur rappelle le fils et le discours de celui-ci est en soi une autre forme de recadrage. La femme s'aperçoit que 5 ans, ce n'est rien par rapport à toutes les vies que son fils a déjà eues et toutes celles qu'il a encore à vivre. La mort n'est donc plus vue comme une fin. Par ailleurs, la femme réalise qu'elle n'est plus tout pour son petit, comme elle le pensait. Elle s'aperçoit qu'elle n'est qu'une mère parmi tellement d'autres mères. Ce fils ne semble pas avoir tellement besoin d'elle. Il lui fait même dire que sa requête est inopportune, sa route est longue et il ne peut s'attarder. Puis, comme si tout redevenait normal, chacun retourne à sa place. La mère s'en revint chez elle, Dieu à ses hauteurs bleues, l'enfant à son chemin. Les choses sont, et comme dirait Voltaire, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ce conte est donc une belle invitation à accepter ce qui est. Et je vous propose aujourd'hui de faire un deuxième petit pas vers l'acceptation. Nous en avions déjà effectué un, si vous vous rappelez, à l'épisode 2, intitulé « Le fermier chinois », que je vous invite à écouter ou à réécouter. L'outil que je vais vous présenter aujourd'hui est très, très puissant. Il s'appelle « Le travail » et a été élaboré par l'américaine Byron Katie. Byron Katie, à 43 ans, a fait une grosse dépression et par un questionnement intérieur est arrivée à remonter la pente. Elle a par la suite formalisé ce questionnement au sein de ce qu'elle appelle le travail ou l'investigation. C'est un outil qui trouve son efficacité dans sa simplicité. Il consiste à se poser 4 questions pour se réaligner avec sa propre vérité. Lorsque l'on croit ses pensées plutôt que ce qui est réellement vrai pour soi, on ressent une détresse émotionnelle, une souffrance. Attention, j'ai bien dit ce qui est réellement vrai pour soi. Dans une vision constructiviste, je considère qu'il n'y a pas de réalité, ou plutôt que la réalité est construite par le regard de la personne. Enfin voilà, je ne veux pas vous embrouiller là-dessus. Ce qui fait naître donc cette souffrance, c'est une distorsion en fait entre nos pensées et ce qui est notre vérité. Cette souffrance est, selon Byron Katie, un signal d'alarme naturel qui nous prévient que l'on s'attache à une pensée. Or, comme le disait Épictète, nous ne sommes pas affectés par ce qui nous arrive, mais par les pensées que nous nourrissons sur ce qui nous arrive. Je vais vous présenter ce processus d'auto-questionnement et je vous invite vivement à aller plus loin en lisant le livre de Byron Katie intitulé « Aimer ce qui est » ou même à regarder des vidéos d'intervention de Byron Katie sur Internet. C'est vraiment très très beau de voir la façon dont elle s'y prend. Alors je vais vous présenter ce processus. Nous allons suivre trois temps. Le premier temps est l'identification de la situation en six questions, puis un temps qui est le travail en lui-même en quatre questions, et enfin un dernier temps appelé les retournements. Pour faire cet exercice, cette fois il n'y aura vraiment pas le choix, il vous faut un papier et un crayon. Donc mettez en pause l'épisode si vous n'êtes pas disponible pour le faire et revenez plus tard. Vous allez avoir vraiment besoin d'avoir, en fait, les phrases que vous écrivez vont servir pour les différents temps, donc vous avez besoin de relire vos notes. Alors, donc premier temps, prenons d'abord le temps d'identifier une situation stressante, répétitive pour vous, et de se remémorer quand est-ce que ça se passe, avec qui, dans quel lieu. Prenons un temps en fait pour nous replonger mentalement dans ce moment, puis nous ferons les deux autres temps dont j'ai parlé, le travail et les retournements. Alors, une fois que vous avez la situation bien en tête, nous allons déjà inscrire sur la feuille les réponses à six questions et nous allons y répondre par des affirmations. Et ce sont ces affirmations que nous passerons ensuite à la moulinette des quatre questions du travail. Ceci prend du temps et il s'agit de se donner le moyen d'être à l'écoute des réponses qui viennent de l'intérieur. Écoutez la question, fermez les yeux et attendez la réponse. Commençons. Première question, dans la situation choisie, qui vous fâche, vous perturbe, vous attriste ou vous déçoit et pourquoi ? Il s'agit de répondre ici en disant « je suis en colère, triste, énervé » ou peu importe, nommez en tout cas l'émotion dans laquelle ça vous met. Et puis de dire « à cause de » et là d'identifier la personne. Puis de donner une explication « parce que ta 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 ». Si je prends mon exemple personnel, la situation qui me vient aujourd'hui, je pourrais dire « je suis énervée à cause de mon fils aîné parce qu'il ne pense qu'à ses jeux vidéo ». Ensuite, deuxième question, dans cette situation, en quoi voulez-vous que cette personne change ? Que voulez-vous qu'elle fasse ? Ici, répondez par « je veux que un tel fasse ta 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 ». Pour mon exemple, je veux que mon fils aîné se lève le samedi et le dimanche en pensant à autre chose qu'à faire son heure de jeu vidéo que nous lui autorisons uniquement ces jours-là. Je veux par exemple qu'il prenne des livres, fasse des jeux de cartes avec son frère, dessine, etc. Troisième question. Dans cette situation, quel conseil pourriez-vous donner à cette personne ? Utilisez pour répondre la formulation « un tel devrait ou ne devrait pas ta 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 ». Dans mon exemple, mon fils ne devrait pas se dépêcher d'aller faire son heure de jeu vidéo au réveil. Il devrait regarder le ciel par la fenêtre, se réjouir d'être en week-end et d'avoir du temps à lui et en famille. Il devrait profiter d'être le premier levé pour lire ses magazines qu'il aime bien, etc. Quatrième question. Pour que vous soyez heureux, heureuse dans cette situation, qu'avez-vous besoin que cette personne pense, dise, ressente ou fasse ? Répondre en commençant par « j'ai besoin qu'un tel tatata ». J'ai besoin que mon fils ressente de la curiosité pour la vie réelle, qu'il se réjouisse des petits plaisirs de la vie, des goûts, des odeurs qu'il n'a pas dans ses jeux vidéo, qu'il soit en contact avec des vraies personnes. Cinquième question. Que pensez-vous de cette personne dans cette situation ? Faites une liste. N'hésitez pas à vous montrer mesquin, sévère dans vos justes mouvements. Vous pourrez déchirer la feuille après et la faire disparaître. Mais allez-y. Et vous répondrez en commençant par « un tel est ». Dans mon exemple, mon fils est en train de gâcher son potentiel en se restreignant à l'univers des jeux vidéo. Quand il ne joue pas à Minecraft, il collectionne les cartes Minecraft, il lit des livres Minecraft, il fait même des gâteaux en forme de biome Minecraft. Cela vire à l'obsession chez lui. Or, il est très bon élève, très intelligent et curieux, et je trouve ça dommage qu'il se restreigne. Sixième question. Par rapport à cette situation, que voulez-vous ne plus jamais revivre ? En commençant par « je ne veux plus jamais ». Je ne veux plus jamais que mon fils fasse une crise parce qu'une heure de jeu vidéo, c'est trop court, et négocie pendant des heures pour en avoir plus. Nous venons de finir le premier temps. Toutes les réponses que vous avez inscrites sur votre feuille vont pouvoir maintenant passer au travers du tamis du travail de Byron Katie, avec quatre simples questions. Première question, est-ce que c'est vrai ? Il s'agit de répondre par oui ou par non. Sur ma feuille, ma première affirmation était « mon fils ne pense qu'à ses jeux vidéo ». C'est évidemment faux. Et fort heureusement, il s'intéresse à plein d'autres choses, il s'intéresse aux pierres, à la science, à la chimie, il aime énormément dessiner, etc. Si vous avez répondu oui, la deuxième question est pour vous. Sinon, vous pouvez, comme moi, passer à la troisième question. La deuxième question, c'est « pouvez-vous être absolument certain que ce soit vrai ?» Cette question amène à se questionner sur le factuel qui sous-tend notre affirmation. Vous pouvez répondre oui ou répondre non, puis passer à la troisième question. Troisième question, comment réagissez-vous ? Que se passe-t-il quand vous croyez cette pensée ? Dans mon exemple, quand je pense que mon fils aîné ne pense qu'aux jeux vidéo, je suis en colère, j'ai un sentiment de gâchis, je trouve ça nul, je suis déçue, et je me dis que je ne fais pas bien mon rôle de parent, car j'échoue à l'intéresser à autre chose. Quatrième question, qui seriez-vous sans la pensée ? Si je me remets dans la situation, pour répondre à cette question, il faut se remettre dans la situation, et que je vois mon fils au réveil qui se précipite sur sa console, et que je n'ai pas cette pensée, il ne pense qu'aux jeux vidéo, alors ça change vraiment la donne. Je suis une maman qui se lève le samedi et le dimanche de manière beaucoup plus détendue. Je me réjouis de la joie de mon fils à faire quelque chose qu'il aime vraiment, si je n'ai pas cette pensée. Maintenant que sur une première affirmation, vous avez posé les quatre questions du travail, nous allons procéder à ce que Byron Katie appelle le retournement. C'est notre troisième et dernier temps. Il s'agit de retourner l'affirmation. Les retournements sont des opportunités en fait, de considérer le contraire de ce que nous croyons être vrai. Il y a plusieurs retournements possibles. Par exemple, mon fils ne pense qu'aux jeux vidéo. Premier retournement, un retournement à l'opposé. Mon fils ne pense pas qu'aux jeux vidéo. Deuxième retournement, ça peut être un retournement vers moi-même. Je ne pense qu'aux jeux vidéo. Ou alors, ça peut être aussi un retournement vers l'autre. Là, je vais changer l'affirmation. Si ma pensée, par exemple, est « il m'a blessé », ce sera « je l'ai blessé ». Qui a un retournement vers l'autre. Pour chaque retournement, prenons le temps de les expérimenter pleinement. Pour chacun, demandons-nous, est-ce aussi vrai ou plus vrai que mon affirmation de départ ? Par exemple, mon fils ne pense qu'aux jeux vidéo. Mon fils ne pense pas qu'aux jeux vidéo. C'est clairement plus vrai que mon affirmation de départ. Pouvez-vous trouver des exemples précis où ce retournement est vrai dans votre vie ? Il n'est pas question de se blâmer ou de se sentir coupable. Il est question de découvrir les alternatives qui peuvent nous apporter la paix. Et encore une fois, comme à chaque fois qu'on travaille sur des croyances, il faut l'ancrer dans des exemples concrets. Les quatre questions et les retournements sont à faire sur chaque affirmation de votre feuille avec les six premières questions sur la situation. Donc, comme je vous le disais, ça prend un peu de temps et on ne va pas faire l'exercice ensemble ici. Pour la sixième question du premier temps, dont la réponse commence par « je ne veux plus jamais », le retournement se fait sous la forme de « je suis disposé à », »,« je me réjouis de ». Si vous sentez une quelconque résistance à ce niveau-là, votre travail n'est pas encore achevé. Comme dirait Katie, vous vous disputez encore avec la réalité. Personnellement, cet outil m'aide énormément. Et là encore, en faisant l'exercice avec vous pour mon fils et ses jeux vidéo, je constate à quel point faire le travail assouplit ma vision des choses. Étant moi-même de caractère assez passionné et assez jusqu'au boutiste dans certains domaines, je me réjouis en fait que mon fils ait trouvé une passion, sa passion du moment, et peut-être même qu'elle restera longtemps. Ça m'a permis de voir vraiment les choses différemment et de voir qu'en dehors de ces 2 heures de jeux vidéo hebdomadaires, il nourrit tout un imaginaire autour de ça. Voilà, cet épisode étant un peu plus long que la normale, pour le regard sur l'entreprise, je vais aller très vite. Je vais juste vous inviter à reprendre la courbe du deuil d'Elisabeth Kübler-Ross, dont j'ai décrit les étapes en début d'épisode, et de voir comment ceci pourrait être éclairant pour vous si vos équipes ont vécu un choc du type réorganisation en profondeur du service ou changement de dirigeant ou annonce d'un plan de licenciement, etc. Cette courbe est vraiment aidante pour positionner les membres de votre équipe et les aider à cheminer à l'étape suivante sans vouloir précipiter les choses vers une acceptation. Les étapes sont séquentielles et doivent être vécues les unes après les autres. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que j'ai pris déjà beaucoup de votre temps. Nous arrivons à la fin de l'épisode. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous dans 15 jours où nous parlerons du choix de Ko-fi. Mais ça, c'est une autre histoire. La vie est un conte est un podcast indépendant. Une bonne façon de le soutenir est de le faire connaître autour de vous. En cadeau de cet épisode, je vous ai préparé un document avec le compte que vous avez écouté et l'outil de coaching formalisé. Pour le recevoir, rendez-vous sur lavieestuncompte.com. À bientôt !